Bertin, Gilles Elbaz, et j'en oublie un encore, non?
Luc Roman.
Il n'était pas dans le club des cinq. Luc Roman, il faisait partie de l'époque, bien sûr. Ouais. Bertin. Jacques Bertin, voilà. D'accord. Eh bien, c'est l'heure de dire merci. Alors, merci à tout le monde ici. Je commence par Isabelle de l'anecdote que nous irons
merci
voir.
Que de noblesse.
Pour votre invitation.
Merci, merci d'être venu. Merci Claude Fonfred pour tout ce que tu as vécu, à raconter, à laisser, à nous faire plaisir, à nous faire du bien comme ça. Merci à Marc Avé.
Non, mais je vous en prie, merci.
Merci à Nathalie et merci à Claude. Et nous écoutons bientôt.
Alors, moi, je suis plus de la gueule.
Tu as acheté au
billet.
C'est parce que c'était marqué
pour ce joli billet.
Et merci Alain Calès. Excuse-moi. Ça marche. Je vais le dire plusieurs fois. Merci Alain. Merci Alain. Merci Alain.
Merci Alain. Et à l'autre.
C'est comme dans le film de Les 400 coups où il répète, je crois, tout le temps le même mot. Tout ça. Voilà. Et bon. L'émission Radio Cartable qui arrive.
Sur Radio Libertaire 89.4.
Tiens, je te donne celui-là. C'est un hommage à James Olivier.
Superbe.
C'est un spectacle que j'aurais monté.
Merci Claude. Et donc effectivement, c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Aujourd'hui est jour de rediffusion à l'occasion de l'exposition qui est encore jusqu'à février à l'espace Gérard Philippe. Il y a une petite promenade qui est proposée dans la ville, 20 stations grâce auxquelles on peut écouter des extraits de l'histoire de Radio Cartable. Et l'une de ces stations concerne l'Amazonie. Un Colombien, Jikiti, était venu rencontrer en 1994 une classe d'Einstein. Et on a donc les archives de cette rencontre assez extraordinaire que l'on va écouter aujourd'hui.
Radio Cartable. École d'Ivry.
Les élèves de CM2 de l'école Albert Einstein d'Ivry et moi-même avons eu l'incroyable chance de rencontrer un ethnologue qui a vécu avec des Indiens d'Amazonie et a étudié leurs coutumes. Nous avons pu également discuter avec un de ces Indiens. Cette émission sera la première de toute une série que vous retrouverez à la rentrée scolaire, tant cette rencontre fut riche et passionnante. Un grand cours de philosophie qui vous laissera, nous en sommes certains, méditatifs. Plongeons-nous à présent dans l'atmosphère de la forêt amazonienne et écoutons ces témoignages.
Rikiti Buinaima est une mère Miranya, qui est une tribu d'Indiens originaires de Colombie, de l'Amazonie colombienne, et son père est un Indien du Pérou, des hauts plateaux du Pérou. Donc c'est un métis d'Indiens d'Amazonie et des hauts plateaux, mais c'est un Indien. Il est né en Colombie. Et il vivait jusqu'à il y a 2 ans en Colombie. Il vit maintenant en France parce qu'il est marié avec une femme française dont il a un enfant qui s'appelle Sarah et qui a 2 ans. Mais je peux vous dire maintenant qui sont les Indiens Miranya et qui sont connus comme Bora et Mirania. Moi, j'ai travaillé pendant près de 10 ans chez ces gens. C'est des gens qui, au début du siècle, étaient environ 15 000 personnes et vivaient, je ne sais pas, il n'y a pas de carte ici, mais c'est entre deux fleuves qui sont près de l'Amazone, le Kawinari et le... quel autre fleuve
fleuve qui s'appelle Pan.
Ah oui, c'est un affluent du Kawinari en Amazonie colombienne qui s'appelle le Pama. Et c'était des gens qui vivaient extrêmement tranquillement de la pêche, de la chasse, de la cueillette, qui vivaient dans les zones interfleuves, et c'est-à-dire entre les fleuves. Jusqu'à ce que, au début du siècle, à la fin du siècle dernier, on a découvert l'automobile. Et on s'est dit que ça serait bien de lui mettre des roues en caoutchouc. Et alors, il y a eu une très très grande demande de caoutchouc dans le monde, et on ne connaissait qu'une seule source de caoutchouc, c'était l'Amazonie. Et qui vivait en Amazonie, c'était les Indiens. Et qui connaissait ces arbres, c'était les Indiens. Donc, les Blancs sont allés en Amazonie pour mettre en esclavage les Indiens, pour qu'ils puissent rapporter le caoutchouc, parce que nous, les Français, les Américains, les Anglais, demandaient énormément de caoutchouc. Donc, pendant à peu près 60 ans, les Blancs, des Colombiens, des Péruviens, et même des Anglais, ont exploité les Indiens, et quelquefois d'une manière extrêmement dure. Et dans le cas des Indiens Bora et Mirania, dont Rikiti fait partie, ils ont été presque totalement exterminés par les patrons du caoutchouc, qui, quand ils ne rapportaient pas assez de caoutchouc dans la journée, hop, ils les tuaient. Ou ils leur coupaient les oreilles, ils étaient extrêmement méchants avec ces gens-là, ils les brûlaient vivants, enfin, il y a des tas d'exemples, ils peuvent vous raconter. De toute façon, sa mère a réussi à fuir, elle a vécu ça, sa mère, mais toute sa famille, je crois, a disparu, hein, dans l'époque du caoutchouc. Et donc, il peut lui-même témoigner de cette époque. Ça se passait au début du siècle, où personne n'était né, c'était aux alentours de 1900. Et les Bora Mirania, au début du siècle, étaient 15 000. Et maintenant, en Colombie, il y a à peine, je ne sais pas, il y a peut-être moins d'un millier de Bora Mirania. Moins d'un millier.
Presque 800.
800. Vous vous rendez compte, de 15 000, il n'en reste plus que 800 maintenant. Il y en a d'autres qui ont été déportés au Pérou, c'est là où j'ai travaillé, dans des familles qui avaient subi tout ce massacre du caoutchouc, et il y a peut-être 2000 Indiens Bora et Mirania au Pérou. Et c'est des gens qui vivent donc dans la forêt, toujours aujourd'hui, dans des sortes de maisons communautaires où ils vivent à plusieurs familles. C'est des grandes maisons rectangulaires, à moitié rondes, avec des très hauts toits faits de palmes. Et ils vivent à plusieurs familles, toujours de chasse, de pêche, de cueillette et d'agriculture. Mais maintenant qu'ils sont en contact avec le monde moderne, ils sont habillés avec des chemises, des pantalons, donc ils ont besoin d'objets du monde moderne, et ils ont besoin donc d'argent. En fait, c'était tout ce que c'était pour présenter. Alors Rikiti ne vit plus dans une maison traditionnelle comme avant, mais il vit dans une petite ville au bord de l'Amazone qui s'appelle Laetitia.
Vous
je suis né dans un fleuve qui s'appelle Amazon, le fleuve de l'Amazon, le plus gros fleuve du monde, que vous savez bien. Et bien, j'ai appris à pêcher des poissons, à faire de la canoë et j'ai appris à planter des plantes médicinales, c'est ça, médicinales, et plantes, comment dire, plantes alimentaires. Plantes alimentaires comme la manioc, qui est notre base alimentaire dans la tribu, des ananas et beaucoup de plantes médicinales, parce que mon grand-père a été un chaman,
un sorcier,
un médecin de la forêt. Il m'a enseigné à faire la guérison.
À guérir
avec des danses. Je danse quand je vais guérir un petit enfant. Je danse d'abord. C'est différent à la médecine de blanc, comme ici en France. Nous dansons d'abord, nous entrons en une transe avec beaucoup de substances. Nous boivons la substance pour avoir une vision magique, spirituelle.
Moi, je voulais poser une question tout à l'heure quand elle a parlé des sorciers qui voyaient la vision. Et dans le film, on avait vu ça. Et je voulais vous poser si c'est vrai.
En la peli, tu, ahora has hablado de los chamans que veían
visiones.
Y él dice que en la película también ha visto esto. Y él quiere saber si es cierto.
Pour te répondre à cette question, c'est difficile de transmettre en français qu'est-ce que nous avons en notre mentalité indienne et qu'est-ce que vous avez comme blanc dans la civilisation occidentale avec des technologies, avec des mathématiques, des physiques et quelque chose comme ça. Nous, les Indiens, nous vivons dans un monde différent. Une mentalité que je pense que c'est un espace et un temps radicalement différent. So, la vie de les Indiens, la mentalité de les Indiens sont très spirituelles. Nous pensons que notre église, par exemple, d'abord je vais te expliquer doucement, notre église c'est la nature, c'est le monde infini des arbres, des plantes, des animaux, des fleurs, de l'eau, et bien. Quand nous sommes petits enfants, comme vous, les chamans, les sorcières, ils prennent non tous les garçons, mais pas les filles. Tous les sorciers sont garçons. Et un sorcier, par exemple, mon grand-père, j'ai vécu avec beaucoup d'enfants comme aujourd'hui. Et les chamans, ils étudient avec sa connaissance qui est les garçons qui a une prédisposition, oui.
Vous comprenez, prédisposition, c'est qui est parce qu'il y a beaucoup de petits garçons, mais il y en a pas beaucoup qui peuvent être sorciers. Donc, celui qui est prédisposé, celui qui est né pour être un sorcier.
Les chamans, ils regardent un garçon. Avec ses yeux, les yeux de les sorciers sont comme un rayon.
Comme un rayon.
Comme un rayon laser qui te pénètre la main. qui
pénètre ton cerveau.
Et quand j'étais comme toi, comme tu t'appelles, hein? Mohamed. Oh. Et elle m'a dit, Hikiti, tu vas être un médecin de la forêt.
Un médecin de la forêt.
Et je lui ai répondu, pourquoi, grand-père? Il m'a dit, parce que tu as une bonne énergie mentale, physique et spirituelle, et tu as une force nécessaire pour réussir les périodes d'apprentissage. Et je lui ai dit, pourquoi mon frère et mon copain, elle n'est pas un sorcier aussi, mais c'est parce qu'ils sont très faibles. Vous comprenez? Ils sont très faibles. Vous avez une énergie et vous avez un corps et une mente ouverte à l'univers. Et bon, et quand tu vas commencer à être une sorcière, elle ne te donne la même nourriture qu'elle donne à tous les autres enfants. Tu vas manger différentes choses comme sans sel, tu manges la...
Vous comprenez? Non, c'est pour être sorcier, celui qui doit devenir un sorcier, il faut pas qu'il mange comme les autres. Alors, par exemple, il faut qu'il mange... Il y a des tas d'animaux qui ne peuvent pas manger, et il faut manger sans sel. Et puis, c'est ça qu'il veut dire.
Et tu bois une substance, tu comprends, qui est un jus, un fruit de la forêt, qui te va fortifier physiquement, et mentalement.
Qui va te fortifier physiquement.
Yeah, tu vas fortifier et tu vas élever en un état complètement différent à ton copain. Tu vas marcher dans la forêt et presque pendant 10 ans d'apprentissage, de comment connaître les plantes médicinales, les fruits, et les arbres, de te communiquer avec la nature, de parler avec les arbres, parce que nous les Indiens parlons avec les arbres, comme je parle avec toi, parce que nous croyons que les arbres sont comme personnes, avec une âme, avec un corps, avec des sang, des bras, des doigts, des pieds, si? C'est que nous croyons que les arbres sont comme notre frère. Après 10 ans d'apprentissage, les sorcières t'emportent une espèce de petite maison solitaire où tu vas vivre et tu vas recevoir la nourriture et tu vas faire comme une gymnastique, toujours, pour fortifier ton corps physiquement. Et les sorcières te parlent, te montrent tout, si? Et pendant la nuit, tu marches pendant la nuit parce que tes yeux doivent s'accostumer à
s'habituer
à voir la jungle comme les animaux. Parce qu'un Indien, quand il marche pendant la nuit, il est capable de voir les choses comme un animal. C'est-à-dire comme un jaguar, par exemple, comme un ocelot. Il a le sens. Eh bien, quand tu es arrivé à 14 ans, par exemple, les sorciers considèrent que tu es capable de boire une substance hallucinogène.
C'est une drogue.
quand tu bois cette substance, les sorcières te donnent un petit peu. D'abord, elles te donnent presque 10 gouttes. Et elles te amarrent.
Ils t'attachent.
Ils t'attachent à un arbre parce que tu vas crier, tu vas pleurer, tu vas te révolcar.
Tu vas, comment on dit, te débattre.
Te débattre. Si tu vas passer un choc émotionnel, et si tu ne passes pas cet examen, c'est comme un examen. Si?
Un examen, c'est comme un examen.
Comme un test.
C'est comme un test, mais si tu ne réussis pas...
Tu ne... Et te laisses.
Vous voyez qu'un animal ou plusieurs?
La drogue, tu commences à voir les ciels, par exemple, les ciels. Normalement, quand tu bois un petit peu, tu commences à voir les ciels avec beaucoup de couleurs qui brûlent, si? De différentes couleurs comme jaune, comme rouge... Et cette ambition qui t'approxime peu à peu à la maxima vision quand elle te va donner une autre fois 20 gouttes. Et tu pleures, tu as la diarrhée. Comment c'est ça?
Tu as la diarrhée.
Diarrhée, tu t'urines parce que c'est très fort et tu souffres une convulsion.
Maintenant,
je suis un adulte, un homme. Je suis capable de boire 90 gouttes, mais une petite tasse complète, pleine de cette drogue. Et quand je bois toute cette boisson, cette drogue, je peux boire. D'abord, quand je veux boire ça, je prie à la nature pour me donner ce que je veux boire. Mais ce n'est pas facile parce que. En ta vision, quand tu es en transe, tu vois beaucoup d'animaux, très gros animaux comme cette maison, des aigles par exemple,
avec les cerfs.
Oui, qui viennent du ciel, 20 aigles immenses, qui sont très méchants. Et une autre fois, tu vois un immense boa constrictor.
Un boa?
Un boa constrictor, tu connais la immense boa anaconda, la plus grosse serpent du monde. Et je suis très triste maintenant parce que le message que je vais porter à ma civilisation indienne est que l'homme blanc, la civilisation blanche, peu à peu s'approche de notre territoire, de notre pays, simplement pour le détruire. La civilisation blanche jamais va protéger la forêt amazonienne. Et la mentalité des grands consortiums, les grands systèmes économiques du monde civilisé d'ici, par exemple, les grandes compagnies pétrolifères, comme la Texaco, comme la Health Aquitaine de France, que je les connais muy bien, très bien parce que à la forêt amazonienne maintenant un grand projet français pour exploiter le pétrole, le gaz que nous avons là dans la forêt. Et ça va être un gros problème pour nous. Parce qu'ils vont détruire notre territoire où nous cherchons de la pêche, de la chasse, où nous avons tous les arbres. Et je suis triste parce que la forêt, chaque jour, chaque année, est envahie.
Envahie
et détruite par les machines de la civilisation blanche. Et c'est vraiment Et nous sommes impuissants.
Impuissants.
Oui. Impuissants devant cette civilisation très puissante, comme vous savez. Et je vous en prie, vous êtes en un âge d'apprendre qu'il existe êtres humains comme nous, les Indiens, que nous sommes comme vous. Nous avons de l'âme, nous avons de l'esprit, nous avons de le corps. Nous avons besoin de vivre en paix, en harmonie, sans la machine, sans la télévision, sans le téléphone, sans les métros, sans les avions, sans les produits chimiques, les plastiques qui polluent toutes les rivières de l'Amazonie. Aujourd'hui, nous pensons que...
Cette première émission s'achève sur un message fondamental qui doit être entendu et compris de tous. Nous retrouverons Rikiti à la rentrée et nous découvrirons à travers ses témoignages, ses modes de vie, l'initiation du passage de l'adolescence à la puberté, la place de la femme dans la société indienne, l'utilisation de la drogue dans sa culture, la critique du film de La forêt d'émeraude du réalisateur Bouman, les coutumes, les rites après la mort, les modes de communication et de nombreux sujets tous plus passionnants les uns que les autres. Nous remercions Rikiti de nous avoir consacré du temps. Nous lui promettons de ne pas oublier son cri de désespoir. Des remerciements également à M. Razon, l'ethnologue, qui nous a permis cette rencontre et une meilleure compréhension de la culture indienne, ainsi que le prélèvement de sonore, qui ont illustré et qui illustreront les émissions suivantes.
Bonjour. Alors, nous allons poser des questions sur les Indiens d'Amazonie. Alors, la première est, que pensez-vous?
Septième A de l'école Einstein. Vous êtes toujours sur Radio Cartable 89.4 FM.
Voici la deuxième partie de notre émission consacrée à la vie d'un Indien d'Amazonie que nos camarades ont eu la chance de rencontrer l'an dernier. Il s'agit de Rikiti qui, dans la première émission, nous avait expliqué la vie d'un chaman, c'est-à-dire un sorcier, la prise de drogue, et nous nous souvenons de son cri de détresse car les Blancs, peu à peu, détruisent la forêt et leur village. J'ai si parfois la vitesse de l'enregistrement varie.
Et quand Rikiti est venu, nous étions tellement passionnés par ce qu'il nous disait que nous avions oublié de vérifier les piles.
Notre instituteur Philippe a fait de son mieux pour tenter de rendre correcte cette interview, tant le sujet est extraordinaire.
Laissons la parole à Rikiti et à Monsieur Razon, qui est l'ethnologue qui nous a permis cette rencontre.
Ils vont tout d'abord nous apprendre les coutumes qu'ils doivent vivre quand ils retournent dans la forêt.
Ma vie a changé. Oui. Et aujourd'hui, c'est pas possible de continuer comme ça. Quand je retourne à la forêt, à notre fois, par exemple, je dois passer un long temps pour nettoyer mon organisme. Que maintenant, je bois beaucoup de nourriture française, qu'elle a beaucoup de chimiques. Tout est chimique. Rien n'est adapté à mon organisme. So, quand je retourne à la forêt, je dois passer un long temps pour retourner à ma vie primitive.
Peut-être que je peux raconter une petite expérience que moi j'ai eue. Il y a très longtemps, j'ai fait un voyage chez des Indiens qui s'appellent les Indiens Tatuyo et qui, eux, prennent aussi de cette drogue hallucinogène. Je suis arrivé un jour, une fête où ils buvaient, où les hommes uniquement buvaient. En fait, je suis arrivé une semaine avant et on se prépare une semaine avant. Alors, il faut manger des choses, pas beaucoup, et des choses extrêmement particulières. On ne peut pas manger trop de viande, on ne peut pas manger de certains poissons.
On peut boire des bouillons chauds. Mais...
Ça, c'était chez les Tatuyo. Et puis, trois jours avant,
on jeûne et on se lave l'estomac. Alors on boit des grands bols, grands comme ça, d'eau. On voit le ventre grossir, puis on se fait vomir pour se laver entièrement, pour être complètement pur de toute nourriture, même...
Lui, il dit qu'il est complètement impur parce qu'il mange de la nourriture française et c'est complètement différent de la nourriture d'Amazonie. Mais même, il faut quand on doit prendre cet hallucinogène...
Il faut être
complètement pur. Donc...
On commence le matin
où on s'est complètement nettoyé l'estomac,
je me souviens, on s'était levé
à 4 heures du matin.
On avait été au bord de la rivière, on buvait des énormes bols d'eau, on vomissait.
Et on ne mange pas du tout de la journée. Et le soir,
on me donne une petite tasse, quelques gouttes de yaré.
Ça me fait rien, je dis, ah, ça me fait rien, j'en voudrais d'autres. Tous les hommes
en buvaient et je voyais qu'ils étaient tous
dans une sorte de transe. Moi, pas grand-chose, mais en fait, ils m'en avaient pas donné beaucoup.
Et en plus, c'est quelque chose de
très amer et qui rend...
Assez malade. Et puis, on m'en a redonné. Et là, j'ai commencé à voir des choses.
Alors, j'ai pas vu d'animaux parce qu'on m'en a pas donné beaucoup, mais...
Je voyais par exemple...
C'était la nuit, et j'étais assis d'un côté de la maison.
Et de l'autre, la porte était ouverte.
Et je voyais comme en plein jour, la forêt verte, enfin des couleurs extraordinaires. Et puis, je voyais les femmes...
Qui étaient au fond de la pièce, qui ne participaient pas à cette prise hallucinogène,
se transformer en pierre. Et
je voyais des choses assez
bizarres. Puis je demandais à mon voisin, je dis, mais est-ce que c'est normal de voir ça?
Il me dit, oui, oui. Et puis tu ne vois pas le vieux, là, et un autre.
Et en fait, tous les ancêtres qui étaient déjà morts revenaient.
Pour participer à la fête.
Et je les voyais, et ils me disaient, oui, tiens, ça c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et lui aussi les voyait, et on voyait tous ces gens-là.
C'était un peu...
Oui, ben je les voyais. Voilà, c'est...
C'était mon expérience, voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Mais c'était pour fortifier ce qu'il disait, qu'il peut pas... Avant de reprendre un hallucinogène, il faudra qu'il se nettoie énormément le corps de toutes les nourritures impures qu'il a pu manger.
Ici. Pardon.
No, une sorcière est comme un athlète. Oui. Elle doit être comme un athlète.
Comme un athlète.
Oui. Un corps physique excellent. Une mentalité. Et... limpia, comme ça.
Propre.
Propre. C'est la capacité fondamentale pour être un sorcier. Un corps, un physique. Fort et une mentalité propre, très propre.
Et il ne partage pas la vie de la communauté.
Il est un homme totalement solitaire. Sa vie est
complètement différente. Est-ce comme
un prêtre de l'église.
Un prêtre.
Weid weid ina una.
Kof zeyna ta ana bavuin.
Eish, shine in noes kodonas. Na bwe deftan, ma vone vis pepe dam.
Eish, ernes don. Er na tan kwa yaj bau un wabe. Det baksa is ni fish ma bibet. Shan de shane.
Awi dona, avon po.
Bon, vous savez, quand j'étais en Bré-Andian, dans la forêt, je suis totalement, complètement nu, sans pantalon, sans rien. Ma mère aussi, mon frère, mon père, tout le monde, nous avons vécu totalement nu. Parce que là, dans la forêt, nous avons deux saisons. La saison de la pluie et la saison que nous l'appelons l'été. Et c'est très chaud, très chaud. Et c'est pas possible d'utiliser chemise ou pantalon. Personne n'a besoin de ça. Tout le monde, nous vivons sans bâtiment. Et quand j'entrais à la civilisation, les missionnaires catholiques qui m'ont donné des chemises
des pantalons et des chaussures pour vivre dans la cité. Mais quand je suis dans la forêt, je retire ça. Oui. Je utilise un petit short qui est fait d'une fibre d'un arbre qui s'appelle palmière.
Nous avions vu un film intitulé La forêt d'émeraude et nous avions décidé de le comparer à la réalité.
Donc, nous avons fait voir à Rikiti quelques passages, l'un montrant la prise de drogue, l'autre la coutume liée à leurs croyances, où nous pouvions voir des Indiens boire des cendres d'un mort de leur famille.
Via wen zenve na schon nutanas. Alquanes neftananen as megas. And this can always hear a word that way before us. Ye bid Navinba da Kumbat. Boya afwan bimbai adne dava no kugwed me voz quando a vida nas chapa engoingando.
C'est assez vrai ce qu'il y a dans ce film. Bon, c'est un peu romancé, mais je veux dire, l'initiation avec les fourmis, puis les flûtes, c'est des flûtes qui sont utilisées uniquement pour l'initiation dans certaines tribus, et même chez les Bora
et les
Miranya. Et c'est des flûtes, mais qu'on ne devrait jamais montrer parce que les femmes ne doivent pas voir ça. Hein?
Et c'est une des choses qui est difficile de comprendre ici en France ou en Europe. Parce que la mentalité des Blancs est que la femme et l'homme sont en égalité. Oui? C'est ça? Et normalement, si tu veux que les femmes chez les Indiens sont en plus bas, c'est parce que les Indiens, nous croyons que c'est comme ça. C'est notre mentalité. C'est pas possible de mettre en ta mente que la femme doit être en égalité avec nous. Les hommes, c'est les Indiens, c'est nous. C'est différent. Ici, la femme est en égalité avec les hommes. Parce que c'est ta mentalité, ta culture. Ça va? Mais chez les Indiens, les femmes, elles jamais vont être en égalité avec les hommes parce que nous considérons qu'ils ne sont capables de résister. Et par exemple, un trans avec les boissons. Parce que c'est très fort. La femme, possiblement, va être morte. Et vous savez, vous, ils sont à part. Oui? Et les hommes sont en danse, en trans, en démonstration d'énergie, de puissance. Et comme ça, oui. Quand je parle devant ce micro, parce que si ma tribu me veut comme ça, elles vont penser que c'est un geste très mauvais. Je ne suis de la même tribu que vous avez vu dans le film. Je suis de différentes tribus. Et chaque tribu, nous avons, comme ici en France, les Français sont une tribu. Par exemple, je vais utiliser cette question, différente à les Allemands, différente à les Anglais, différente à les Italiens. Et nous sommes dans la forêt, ici nous avons beaucoup de pays différents. Ces Indiens sont différents de nous. Nous utilisons la drogue avec juste des racines.
Du jus de racine
cuit pendant 3 mois. Et nous les mélangeons avec beaucoup d'autres substances, des fruits, des racines. Et feuilles. Et nous utilisons cette substance pour voir cette sandiane. Elles utilisent un autre feuille pour produire une poudre. Oui? Et ça, c'est souffle, ça, comme vous avez vu. Mais c'est vrai, parce que je l'ai vu.
Oui. Mais oui, il faut bien comprendre que dans le film, ce n'est pas des vraies tribus, les invisibles et les féroces. Ils ont inventé ça pour les besoins du film, mais ils se sont inspirés de plusieurs tribus. Oui. Et, par exemple, la maison collective, c'était... Vous avez vu la maison avec tout en cercle, comme ça. C'est la maison typique des Indiens Yanomami, dont je vous ai passé des documents. Et puis, la manière de se souffler la poudre, de se faire souffler la poudre hallucinogène dans le nez, c'est les Indiens Jivaro d'Équateur qui font ça. Donc, il y a plusieurs... Ils ont rassemblé plusieurs coutumes de tribus, mais les invisibles ou les féroces n'existent pas. Et les fourmis aussi.
Et en Colombie, par exemple, nous avons un autre Indien qui utilise la même drogue, non la même drogue, la même feuille que autres Indiens, mais c'est le mastiquent, comment ça s'appelle?
Mastiquer? Mâcher.
Le mâcher, il le mélange avec une poudre blanche, et il souffre la même convulsion mentale.
Est-ce qu'on est obligé de prendre de la drogue? Ben, si on est un t'es obligé d'aller à l'école, toi. Donc les enfants indiens pour devenir
oui.
Hommes, ils sont obligés. Enfin, c'est pas obligé, ça se pose pas dans ces termes. Ça se fait, c'est tout. Mais personne va t'obliger à le faire. Mais tu sais que tu dois le faire. Voilà.
Oui, c'est un habit, une forme de vivre.
C'est une forme de vivre. Mais t'es pas obligé, mais tu le fais. Bon, oui, en fait, habituellement, ce qu'on prend, c'est une peinture rouge qui est extraite d'une petite plante qui a des graines rouges. C'est le... Comment ça s'appelle?
Achiote.
Achiote, c'est une plante qui s'appelle achiote. Non, il y a aussi du noir. On peut se peindre aussi en noir avec une autre plante. Mais en général, c'est rouge, noir et blanc. Le blanc, c'est aussi une autre plante, c'est ça, non?
Oui. Et par exemple, je connais un autre indien dans mon région, en Amazonie, qui s'appelle le Yagua.
Yagua.
Le Yagua. Cet indien, il utilise le achote comme nu. Nous l'utilisons, mais elle fait différentes formes de peinture dans son visage. Et je connais une autre tribu qui s'appelle Tikuna, elle utilise un autre Tikuna. Elle utilise un autre fruit qui produit une couleur totalement noire.
Elle te pregunta si uno no toma... La droga no es un hombre, entonces.
No, la consideración de esta cuestión es un poco dura, porque la tribu, por ejemplo, aquí, yo voy a hacer un ejemplo. Si tú no utilizas chemise y pantalón, tu ne peux vivre ensemble avec la communauté.
Si tu ne portes pas de chemise et de pantalon, c'est ça.
Tu ne peux venir à l'école nu.
Oui.
Parce que tous les enfants sont habillés. C'est la drogue. Si tu ne manges la drogue, tu ne peux vivre ensemble avec la tribu parce que c'est une habitude, une tradition, une forme de sentir la vie. D'avoir la connaissance de les choses. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de manger la drogue.
Oui. Boire, ça se boit. Effectivement des Indiens Yanomami, mais eux eux boivent les cendres des morts qui mélangent avec une purée de bananes, et c'est une manière de rendre hommage aux morts et de prendre et de perpétuer le mouvement.
Nous les Indiens, quand nous sommes dans la forêt, nous n'avons carte pour savoir comment est le monde, comment est la planète.
Ils n'ont pas de carte pour savoir comment est le monde et comment est la forêt.
Comme le monde de chez nous est sur la forêt. Et quand tu marches 3 mois à pied, dans la forêt, et tu vois les mers, La mer. En cette frontière de la forêt et la mer, nous considérons cette... comment est-ce qu'il m'a dit? Le bout du monde. C'est le bout du monde pour nous. Nous ne savons pas, les Indiens ne savent pas qu'il existe les Français, par exemple. Qu'il y a le club de la Seine en Paris. Ou les Indiens, jamais ils vont savoir si existent les Italiens. Ou l'Europe. Ou la Scandinavie, ou l'Australie, ou l'Asie. Jamais, pour nous, notre monde total, c'est toujours la forêt.
Je tiens à remercier une fois de plus Rikiti et M. Razon, au nom de tous les enfants de l'école Albert Einstein, qui ont eu la chance de les rencontrer. Vous avez tous, comme moi, bien entendu, compris qu'il n'était absolument pas question de faire l'apologie de la drogue dans cette émission, mais de découvrir le monde pour mieux le protéger, mieux le considérer.
Nous allons bientôt recevoir de nouveau Kitty pour en savoir plus. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez que par notre intermédiaire, nous lui posions des questions, écrivez-nous à l'école Albert Einstein, 9 Allée du Parc, 94 200 Ivry-sur-Seine. Je répète, à l'école Albert Einstein, 9 Allée du Parc, 94 200 Ivry-sur-Seine.
Radio Cartable. Radio Cartable, la radio de l'école d'Ivry.
Petite transition entre Radio Cartable et Bibliomanie. Un petit hommage à Quincy Jones qui date de 1964. C'est l'heure des sorcières. Voilà, en attendant, en bibliomanie, c'était Quincy Jones en 1964 à la composition, à l'arrangement et à la direction d'orchestre. Eh bien, bibliomanie maintenant.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Barry-Marchand, avec la technique Flo des Cailloux, et nous allons partir à la recherche de la dot bleue, de la dot, de la première dot qui vous fait écrire, qui vous fait voyager, qui vous inspire, avec Alain Warreau pour Cendrillon, c'est moi. C'est un recueil de nouvelles, on pourrait dire, qui vient de paraître aux éditions Unicité. Très belle couverture, je l'ai sous les yeux, Alain Warreau. Et Cendrillon, c'est moi. Alors, je vais un petit peu vous présenter avant qu'on rentre en discussion tous les deux. Donc vous êtes professeur de guitare classique au conservatoire départemental des Landes, d'après, voilà. Vous avez publié 5 ouvrages de poésie entre 2016 et 2019, dont une trilogie poétique, 4 saisons plus une, Lettre en vacances, À jour, ça c'est un très beau titre, puis Prélude et fugue, et Le jour opéra. Alors c'est vrai que Cendrillon, c'est moi, je vois, c'est un recueil donc en 5 portraits, on pourrait dire.
Tout à fait, oui. Ouais.
Comme, alors moi j'ai pensé, bizarrement, j'ai pensé aux cordes, comme vous êtes guitariste, j'ai pensé aux 6 cordes. Bon, je sais que pour la guitare, il y en a 6 des cordes, je pense. Ou alors peut-être 5 pour la guitare basse. J'ai 4. Ah, voilà, décidément, je n'y connais rien. Mais j'ai pensé en tous les cas à 5 partitions, 5 cordes, 5 nuances de Cendrillon. Cendrillon étant la figure un peu mythologique. Il y a 2 femmes hein, un peu mythiques dans ce recueil, il y a la Warreau. Il y a Cendrillon et il y a la Mystérieuse.
Oui, on en parlera voilà. Peut-être.
Alors, et donc la couverture de votre livre, il y a 4 portraits de vous, dont 2 sont, qui vont de différentes couleurs, vous passez de l'obscur au clair, hein, on pourrait dire, et c'est vraiment 5 aussi, c'est des nuances de vous-même. Alors je voudrais connaître un peu comment l'histoire de ce recueil, comment est-il né dans votre tête? Est-ce qu'au départ vous avez écrit simplement une histoire, une nouvelle? Est-ce qu'après les nouvelles se sont regroupées? Comment c'est venu cette idée un peu de 5 visages en un seul?
Alors, bon, il n'y a pas eu au départ une idée, je ne me suis pas dit, je vais écrire 5 nouvelles ouais. Dont le titre sera Cendrillon, ouais. C'est moi, et avec un schéma complètement construit. C'est venu petit à petit. Et en fin de compte, la première nouvelle, entre guillemets, qui a été écrite, c'est la dernière qui est présentée, c'est-à-dire La Mystérieuse.
Ah, ben bah voilà, je l'aime bien, La Mystérieuse.
c'est la dernière qui a été écrite, du moins achevée en premier. Et quasiment au même moment, j'étais également en train d'écrire la première nouvelle, qui était Cendrillon. Et c'était une idée comme ça qui m'était venue à propos de Cendrillon. C'est un thème qui me tenait à cœur. Et voilà, mais ça, c'est l'écriture de Cendrillon, de cette première nouvelle, a un petit peu traîné pour différentes raisons. Et donc, ça a été repris après. Donc, j'ai fini cette écriture de Cendrillon et se sont enchaînées quasiment au même moment
oui.
Les 3 autres nouvelles. C'est-à-dire qu'après, une fois que j'avais ça, c'est parti très vite.
Ah oui, donc voilà. Il y avait l'architecte, il y avait deux jambes, on peut dire.
Enfin, deux jambes, voilà.
Et après, tout le corps est venu.
Tout le corps est venu, c'est-à-dire que c'est un petit peu ma façon de faire, c'est-à-dire ouais. que je rumine, je suis un ruminant, je rumine longuement les choses sans les écrire, et après, une fois que c'est quasiment architecturé dans ma tête, à ce moment-là, l'écriture, ça va.